Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 28 septembre 2018. Au Nigeria, 11 morts et plusieurs blessés dans des violences à Jos. Au Cameroun, les avocats des victimes de l'accident de train à Ezeka estiment trop faible le montant des indemnités. Le quartier général de la force du G5 Sahel a été transféré de Sévaré à Bamako et nous aurons un entretien exclusif avec le président Ibrahim Boubacar Keïta à New York. Incarcéré pour corruption, José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président angolais, a entamé une grève de la faim. Et coup de théâtre au Sénat américain après un vote favorable à Brett Kavanaugh, le républicain Jeff Flake demande le report du vote final pour permettre une enquête du FBI sur le juge. La minute est les sports, ce sera juste après le journal. Des violences ont fait 11 morts et plusieurs blessés à Jos, dans le centre du Nigeria, commises par des hommes armés non identifiés. Ces violences ont commencé hier soir en périphérie de la ville et se sont propagées à plusieurs quartiers, a déclaré un porte-parole de l'armée, Oumar Adam. Aujourd'hui, des jeunes ont bloqué la route du quartier Rukuba et attaqué des passants, a-t-il précisé, ajoutant que les patrouilles ont été intensifiées. Le parti au pouvoir au Nigeria a remporté des élections locales partielles dans un état du sud-ouest considéré comme une répétition générale de la présidentielle de 2019. Une victoire aussitôt décriée par l'opposition. Gbo Yega Yoye Ola, le candidat du Congrès des progressistes, a été déclaré vainqueur pour le poste de gouverneur de l'état d'Osun contre Ademola Adeleke du Parti populaire démocratique. Au Mali, le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel a été transféré de Sévaré à Bamako sur décision de son commandant. Le point avec Idriss Fall.
Le général mauritanien Hanena Ould Sidi, chef de la force du G5 Sahel, travaille déjà avec son équipe sur place à Bamako. En tant qu'organe de coordination, le siège de cette force doit se trouver là où les communications et les liaisons sont meilleures. L'officier mauritanien a succédé en juillet au général malien Didier Dako. Ce remplacement a été décidé lors d'un sommet du G5 le 2 juillet à Nouakchott en présence du président français Emmanuel Macron. C'était peu après un attentat djihadiste le 29 juillet contre le quartier général de la force à Sévaré qui avait fait 3 morts dont 2 militaires maliens. En un an, cette force a atteint quelque 80% de ses effectifs prévus de 5000 militaires. Elle a mené quelques opérations avec l'appui logistique de la force française Barkhane. Cependant, le G5 Sahel n'a pas encore d'impact réel sur le terrain où les djihadistes multiplient les attaques meurtrières. Son budget de quelque 420 millions d'euros a été bouclé après plusieurs réunions, mais les fonds tardent à venir. Cette semaine, la question du mandat robuste du financement du G5 a été évoquée aux Nations Unies par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
Un membre des éléments français au Sénégal a été placé en détention provisoire pour avoir frappé un Sénégalais lors d'une rixe à la sortie d'une discothèque de Dakar. Ce soldat de première classe était dans un club avec d'autres militaires lorsqu'une bagarre a éclaté devant l'établissement le 16 septembre. Il a porté des coups à un homme d'une trentaine d'années, Oumar Watt. Hospitalisé, cet entrepreneur souffre d'une fracture de l'os frontal gauche et de multiples contusion cérébrale, selon le certificat médical publié ce vendredi dans la presse. Au Cameroun, les deux collectifs d'avocats qui défendent 280 victimes du déraillement d'un train en 2016 à Ezeka, qui a fait 79 morts et 600 blessés, ont estimé trop faible le montant des indemnités déterminées par la justice. Bagassi Koura nous en dit plus.
Mercredi, un tribunal d'Ezeka a condamné l'entreprise Camorai, filiale du groupe Bolloré, à payer 50 millions de francs CFA de réparation aux 60 victimes défendues par maître Olivier Moteng. « Nous ne sommes pas satisfaits de la décision du tribunal d'Ezeka », a indiqué maître Moteng. L'avocat réclame 2 milliards de francs CFA de dommages et intérêts pour ses clients. Le montant des indemnités de plus de 220 autres victimes défendues par un deuxième collectif d'avocats n'a pas été déterminé. Ce deuxième collectif réclame plus de 150 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les avocats rappellent que le milliard de francs CFA promis il y a plus d'un an par la présidence camerounaise n'a pas été reçu par les familles ou ayants droit. Le 21 octobre 2016, la route Yaoundé-Douala a été coupée suite à de fortes pluies. Les voyageurs étaient obligés de prendre le chemin de fer. Au train de 9 voitures a été ajouté 8 wagons et la vitesse a fait le reste. Le train a déraillé à Ezeka, dans le centre du pays, faisant 79 morts et quelques 600 blessés.
Le fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, incarcéré lundi dans une prison de Luanda pour détournement de fonds, a entamé une grève de la faim. Sa famille lui apporte de la nourriture, mais il refuse de s'alimenter depuis mardi, selon une source pénitentiaire. Ancien président du Fonds souverain angolais, José Filomeno dos Santos a été placé en détention provisoire dans la prison Sao Paulo sur ordre du parquet général. Une centaine de manifestants ont protesté devant le Parlement zambien à Lusaka contre la corruption au moment où la ministre des Finances présentait son projet de budget 2019. Parmi les manifestants figurait notamment le musicien Chama Pilato Fumba, arrêté l'an dernier avec d'autres protestataires pour avoir manifesté illégalement devant le Parlement dans les mêmes circonstances. Cette année, la manifestation n'a pas été interdite.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, a remporté un vote préliminaire à la commission judiciaire du Sénat. Ceci ouvre la voie à un vote final de confirmation en séance plénière. La bataille est cependant loin d'être terminée. Certains sénateurs républicains réclament en effet une enquête du FBI. Eric Manirakiza.
Les 11 sénateurs républicains de la commission judiciaire ont voté pour recommander la confirmation du juge Brett Kavanaugh. Les 10 démocrates se sont opposés, mais un républicain, Jeff Flake, a réclamé un report du vote final de confirmation en plénière pour une semaine maximum pour que la police fédérale, le FBI, puisse enquêter sur les accusations d'agression sexuelle de Christine Blasey Ford. Sa demande a été soutenue par la sénatrice républicaine Lisa Murkowski. Un juge de la Cour suprême est nommé à vie après sa confirmation par le Sénat. Et les républicains détiennent une courte majorité avec 51 sièges sur 100. Outre Jeff Flake, le vote de deux sénatrices Susan Collins et Lisa Murkowski n'est pas forcément acquis. Les deux femmes soutiennent le droit à l'avortement alors que les associations féministes et les démocrates accusent le juge Kavanaugh, un magistrat catholique et conservateur, de vouloir limiter ce droit. Le président Donald Trump a fait savoir qu'il laissait aux sénateurs le choix de décider s'il était nécessaire d'enquêter plus avant. Jusqu'ici, M. Trump avait refusé d'ordonner une enquête du FBI.
Et de nombreuses victimes d'abus sexuels aux États-Unis sont sorties du silence en entendant hier l'universitaire Christine Blasey Ford accusant le juge Brett Kavanaugh d'agression sexuelle. L'organisation de lutte contre la violence sexuelle Rain a enregistré un pic d'appels pendant son audition publique hier au Sénat, soit une hausse de 201% des appels sur la hotline nationale pour les agressions sexuelles. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a rejeté les accusations devant l'ONU du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon lesquelles l'Iran abriterait un site de stockage atomique secret. Et Kabadou nous en dit plus.
Jeudi, Benjamin Netanyahou a accusé l'Iran, carte à la main depuis la tribune de l'ONU, d'abriter un site de stockage atomique secret à Téhéran. Comment Israël, le seul détenteur d'armes nucléaires au Moyen-Orient, peut-il accuser ainsi sans honte un autre pays dont les programmes ont été jugés pacifiques à maintes reprises par l'Agence internationale de l'énergie atomique ? S'est interrogé M. Zarif selon l'agence officielle iranienne IRNA. Monsieur Netanyahou s'est à nouveau félicité du retrait en mai des États-Unis, l'allié d'Israël, de l'accord international sur le nucléaire iranien. Cet accord conclu à Vienne en 2015 a permis de mettre fin à des années d'isolement de Téhéran par une levée partielle des sanctions économiques. En échange, l'Iran avait accepté de limiter drastiquement son programme d'enrichissement de l'uranium pour garantir qu'il ne cherche pas à se doter de l'arme atomique. Israël est la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient mais n'a pas signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Et deux jeunes Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza lors de heurts à la frontière, a indiqué le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. Ils ont été atteints par des balles réelles lors d'affrontements distincts dans le centre et le nord de l'enclave, a dit le porte-parole du ministère Ashraf Al-Khodra. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La chaîne hôtelière américaine Yacht Hotel envisage de plus que doubler le nombre de ses hôtels en Afrique d'ici 2020 pour profiter de l'amélioration des liaisons aériennes et de la forte croissance économique du continent. Les nouveaux hôtels du groupe Yacht seront implantés entre autres à Nairobi, à Addis Abeba et à Arusha. Yacht Hotel dispose actuellement de 9 hôtels sur le continent africain. L'Éthiopie devrait enregistrer une croissance économique de 8% pour l'année fiscale 2018-2019, indique un communiqué du Fonds monétaire international. Les incertitudes liées à la stabilité économique et politique s'estompent, ce qui a entraîné une amélioration des investissements directs nationaux et étrangers. Le développement du secteur privé devrait aussi permettre une nouvelle hausse de la croissance économique pour l'exercice fiscal en cours. Stanbic Bank Botswana a signé avec l'OPIC, l'institution de financement du développement du gouvernement américain, un contrat de garantie de prêt de 125 millions de dollars pour soutenir le secteur du diamant. La croissance continue de ce secteur devrait aussi avoir des effets positifs sur des secteurs comme l'électricité, les finances et les affaires. Enfin, pour finir, le groupe marocain Banque Centrale Populaire a annoncé avoir réalisé un bénéfice net de 170,5 millions de dollars au premier semestre 2018. Cela représente une hausse de 1,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Au premier semestre 2018, le produit net bancaire du groupe a atteint une hausse de 2%.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Organisation de la CAN 2019. La CAF rendra sa décision après la présidentielle au Cameroun.
La Coupe d'Afrique des Nations 2019 est prévue au Cameroun, mais son organisation a été souvent remise en cause. Le malgache Ahmed Ahmed, patron de la CAF, dit qu'un comité exécutif de la CAF est plus choqué par le rapport d'audit sur l'avancement des travaux à Yaoundé et d'autres villes camerounaises. Le patron du football africain rappelle qu'il avait regretté en août 2017 l'inertie du Cameroun à propos des travaux en vue de la CAN 2019.
Le stade d'Antananarive suspendu pour les 3 prochains mois.
Le président du jury disciplinaire de la CAF a communiqué la sanction aujourd'hui et elle est sans appel. La Fédération malgache de football est interdite de faire jouer la sélection nationale dans le stade de Mahamasina et paiera une amende de 10 000 dollars. Le 9 septembre, il avait été le théâtre d'une bousculade mortelle avant le coup d'envoi d'une rencontre contre le Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Après l'attribution de l'Euro 2024 à l'Allemagne aux dépens de la Turquie, la presse turque fulmine contre l'UEFA.
Le quotidien Yenis Afak parle d'un choix qualifié de coup de poignard dans le dos. Ce n'est pas juste, l'UEFA a donné son soutien au racisme, a tonné en une le quotidien, précisant que c'est l'Europe qui a perdu. Les commentaires véhéments de la presse tranchent avec la réaction mesurée du ministre turc des Sports qui s'est contenté de juger désolant le choix de l'UEFA.
Le choc de la Première Ligue demain en Angleterre.
Des duels haut en couleur à 16h30 temps universel. C'est Chelsea-Liverpool ou Blues contre Red. Salé contre Alonso, Jorginho contre Milner, Alexander-Arnaud contre Hazard, sans oublier le duel tactique Jürgen Klopp et Maurizio Sarri sur les bancs. Il y aura aussi Manchester United contre West Ham. Le manager mancunier José Mourinho a annoncé Paul Pogba dans sa liste des 11 titulaires.
Et enfin, le basket féminin au Mondial 2018 en Espagne. Les Américaines et les Australiennes passent en demi-finale.
Les invincibles basketteuses américaines ont battu aujourd'hui le Nigeria en quart de finale, 71 à 40. Les Australiennes ont surclassé la Chine, 83 à 42. Invaincues en compétition internationale depuis plus de 12 ans, les Américaines joueront en demi-finale contre la Belgique ou la France.
Merci beaucoup Eric pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a concédé que la force conjointe du G5 Sahel peinait à devenir opérationnelle. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. New York a aussi abrité une réunion de haut niveau sur le Mali. Raissa Girondin, notre envoyée spéciale à New York, a eu hier une interview exclusive avec le président Ibrahim Boubacar Keïta à New York. On l'écoute.
Aujourd'hui, nous sommes butés à un problème. Le financement de cette force conjointe. Non, nous appelons une force conjointe. Cette force conjointe a besoin d'être opérationnelle. Et pour qu'elle le soit, il faudrait que son budget soit enfin en place. Parce que dans ce genre d'opération, il est surtout très dangereux dans l'incertitude, dans le hasard. Dès que les opérations commencent, il faut que se poursuive de manière continue. Et toute interruption est préjudiciable à l'efficacité. 423 millions d'euros, madame, ce n'est pas la mer à boire. Pour autant, nous avons encore une gap aujourd'hui de financement. Nous espérons que tout le plaidoyer qui est développé ça et là va aboutir à la conclusion effective de ce bouclage de financement.
Mais est-ce que vous avez donc une alternative au G5 Sahel pour...
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pense que chacun convient que c'est le mode opératoire le mieux adapté aujourd'hui. Et chacun nous dit également vouloir nous aider à faire aboutir nos préoccupations dans ce domaine, dans le domaine de la plus grande pugnacité. Je pense que les valeurs civilisationnelles dont nous réclamons tous sont en cause aujourd'hui. On sait ce que Daesh a fait dans l'Est européen. La coalition internationale a réussi à le bouter maintenant, pratiquement, hors des endroits, des grandes villes que Daesh occupait. Mais le reflux s'opère en quelle direction ? S'opère vers nous. Et vers nous, à travers un pays comme la Libye, qui aujourd'hui pose problème, un grand problème d'instabilité.
Comment doit évoluer donc le mandat en fait de la MINUSMA?
Le mandat de la MINUSMA aujourd'hui, à l'évidence, pose problème. C'est vraiment un paradoxe. Faire la paix, stabiliser la paix, alors même qu'elle n'est pas là. Stabiliser une paix impossible. Quand tous les jours, chaque jour, les actes de violence, les actes d'agression se développent contre l'avancement, contre les populations civiles, contre les villages paisibles maliens, contre les forces maliennes et les forces alliées, il faut donc que la mission dévolue aux forces amies d'avancement soit une mission un peu plus robuste. C'est ce que nous demandons, pas plus.
C'était le président malien Ibrahim Boubacar Keïta au micro de notre envoyé spécial à New York, Raissa Girondin.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Guinée-Bissau, le recensement en vue des élections législatives a finalement commencé après près d'un mois de retard. Le président José Mario Vaza a été le premier à s'inscrire. Le premier ministre Aristide Gomes a déclaré qu'il s'agit d'une phase très importante pour la réalisation du scrutin du 18 novembre. Ces législatives permettront-elles de sortir de la crise dans laquelle le pays est plongé depuis 4 ans? Idriss Fall a recueilli la réponse de Toulinabo Mushingi, ambassadeur américain à Bissau, de passage à Washington.
Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup d'espoir. Je crois que tous les signaux paraissent positifs. Les conversations, j'ai déjà visité la Guinée-Bissau 6 fois dans une année. mes conversations avec les dirigeants des partis politiques, les conversations avec le gouvernement, en passant par le président, le premier ministre, d'autres ministres de l'Intérieur, ministres de Défense, etc., etc., ministres des Finances, les conversations avec le peuple moyen, le peuple lambda, tout le monde est prêt, tout le monde s'attend à ce que les élections aient lieu.
Maintenant, le problème de les tenir, c'est une chose. Ouais. Mais vous savez bien, la Guinée-Bissau, le problème, c'est après les élections.
Oui. Ça, nous avons déjà entendu ça. Nous avons déjà entendu cette formule plusieurs fois, que le problème, c'est après les élections. Mais tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que, d'après mes conversations sur terrain, c'est que le peuple de la Guinée-Bissau est prêt pour essayer d'avancer, pour essayer de mettre ce chapitre derrière eux. Nous, les États-Unis d'Amérique, ce que nous sommes en train de pousser, c'est que la solution doit venir du peuple de Guinée-Bissau lui-même. Les différents partis politiques qui se connaissent, en fait, tout le monde, à un moment ou l'autre, appartenait au même parti politique. Donc les différents partis politiques doivent s'asseoir entre frères et sœurs, entre frères et filles du même pays, et discuter, dire quelle solution nous voulons pour notre pays. Moi, ce que je leur ai dit, une fois qu'ils se seront mis d'accord sur la solution qu'ils veulent, la ligne de conduite qu'ils décident de suivre, de mettre les intérêts du pays, les intérêts du peuple, au-dessus des intérêts individuels, des intérêts des partis politiques, une fois qu'ils arriveront à ce niveau-là, et je crois qu'ils sont dans cette trajectoire d'essayer d'arriver à ça, et à ce moment-là, ils peuvent maintenant dire, vous, nos amis, les États-Unis d'Amérique, où est-ce que vous pouvez nous aider à ça? C'est ça la position que je suis en train d'essayer de pousser.
C'était Tulinabo Mushingi, ambassadeur américain à Bissau, de passage à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Burundi a suspendu pendant 3 mois les activités des ONG étrangères jusqu'à ce qu'elles se conforment à une nouvelle loi contrôlant strictement leurs opérations. Qu'en est-il des activités en cours et quel impact cette décision peut-elle avoir sur les populations bénéficiaires des aides de ces organisations? Pour un élément de réponse, Nani Talani a joint à Paris Tcherina Gérolon, responsable adjointe du Bureau Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, une ONG très active au Burundi.
Ce qui est certain, c'est que cette décision est prise dans un contexte où les violations graves des droits humains continuent d'être perpétrées au Burundi, et cela en toute impunité. Les exécutions sommaires se poursuivent, les disparitions forcées se poursuivent, d'autres violations très graves sont perpétrées. Pour l'essentiel de ces violations, la responsabilité des autorités burundaises, des forces de défense et de sécurité, des Imbonerakure, donc la milice proche du pouvoir, est clairement mise en cause. Ça s'inscrit dans un contexte où le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a lui-même rendu un rapport au début du mois de septembre indiquant que des violations graves des droits humains se poursuivaient au Burundi.
Quel impact la suspension des ONG internationales au Burundi peut-elle avoir sur les populations qui bénéficient des activités de ces ONG?
Tout dépendra aussi des ONG qui sont concernées, mais il va sans dire que les populations burundaises sont particulièrement affectées par la crise majeure qui a éclaté dans ce pays en 2015, que la situation économique est particulièrement alarmante, qu'il y a encore un nombre important aussi de personnes dont les proches sont partis. Enfin, il y a voilà, des structures familiales qui ont été complètement mises à mal. Donc c'est vrai que les ONG indépendantes, pour certaines d'entre elles, viennent pallier et viennent en soutien à ces populations qui sont affectées et qui ne bénéficient pas nécessairement du soutien qu'un État tel qu'il devrait l'être apporterait à ces populations-là. Ce que l'on craint, c'est que cette décision, donc, mais qu'elle ait encore une fois un impact direct sur les populations burundaises. Le départ de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et la crise en elle-même a clairement eu des impacts directs sur les populations civiles au Burundi qui sont les premières affectées par cette crise qui est en cours depuis 2015.
Et comment vous-même percevez-vous l'avenir des ONG au Burundi? Est-ce que vous gardez encore un espoir?
On garde évidemment un espoir parce que la société civile burundaise demeure très active, même en étant en exil, très active pour faire en sorte que la situation au Burundi reste une priorité pour la communauté internationale. Il y a quand même une mobilisation importante de la société civile burundaise.
C'était Tchérina Girolon, responsable adjointe du bureau Afrique de la FIDH. Elle était jointe à Paris.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Ici aux États-Unis, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, a remporté un vote préliminaire à la commission judiciaire du Sénat. Ceci ouvre la voie à un vote final de confirmation en séance plénière. Mais le sénateur républicain Jeff Flakes a réclamé une enquête du FBI. Eric Manirakidza a joint l'analyste Emilio Viano, qui revient sur les auditions judiciaires d'hier au Sénat du juge et de Christine Blasey Ford, l'accusant d'agression sexuelle.
Ça a été une audience historique d'une rare intensité, et suivi en direct par des millions d'Américains. Il y avait une grande différence. Christine Ford est apparue tout en retenue. Et au contraire, le juge Kavanaugh, tout en indignation. Et ce sont deux vérités irréconciliables qui se sont confrontées devant la commission judiciaire après que l'universitaire de Saint-Quentin a accusé le candidat de Trump à la Cour suprême de l'avoir agressé sexuellement dans sa jeunesse.
C'est compliqué d'établir la vérité.
C'est très compliqué, particulièrement quand il n'y a pas la volonté politique de le faire. Parce que on n'a pas fait une investigation de la FBI sur les accusations de la Dr. Ford. C'est vraiment le problème, n'est-ce pas, que la démocratie de laquelle les Américains sont très fiers et qui même ils l'ont présentée comme un modèle à la planète entière, paraît en ce moment ne pas fonctionner comme il devrait. Les deux partis, les démocrates et les républicains, ont cessé de s'accorder sur les règles du jeu, de leur affrontement, et ils n'ont pas plus la capacité de s'entendre et de gouverner dans une façon prévisible. Et ça, c'est un grand problème pour le pays.
La commission est apparue fortement divisée, très divisée. Ils étaient des deux côtés trop partisans. Est-ce un mauvais jour pour la démocratie américaine?
Je voudrais dire oui, malheureusement. C'est un très mauvais jour, et particulièrement, c'est un mauvais jour aussi pour les femmes et les victimes d'agressions sexuelles, que ce soit des hommes ou des femmes, qui peuvent maintenant penser que vraiment pas beaucoup a changé pendant les 30 ans dernières, quand on a travaillé suffisamment, on penserait pour avancer la cause des victimes.
C'était l'analyste politique Emilio Viano.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Sims Loumami. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en redis.